y a des choses très intéressantes, donc c'est plutôt inspirant. Donc il y a des choses que je vais retenir, il y a des personnes surtout avec lesquelles j'aimerais bien, beaucoup échanger après.
Ouais, j'ai l'impression que la journée s'est décomposée en deux types de conférences. Ce matin, c'était beaucoup des conférences où il y avait pas mal de conseils pour moi-même, pour mon travail, dans mon alternance. Et cet après-midi, c'était un peu plus découverte, donc j'ai fait la conférence réalité augmentée, réalité virtuelle, UX design, et celle sur les assistants locaux, la VUI.
À l'occasion des UX Days 2019, nous avons discuté avec Nabil Talman et Patrick Vallon. Ils sont tous deux membres de FUPA et ils participent, en tant que bénévoles, à l'organisation de l'événement. Avec eux, nous échangeons sur cette édition, les attentes des spectateurs, les difficultés rencontrées, ainsi que leur vision du métier de designer. Vous pouvez retrouver les épisodes de Design Masterclass sur notre site designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify, Google. Nous commençons avec Nabil, qui est président de l'association FUPA, ainsi que directeur conseil études et UX Researcher.
Alors les UX Days, en effet c'est deux jours. C'est la 8e édition, on est à près de 1000 personnes cette année, 45 bénévoles, des conférences et des ateliers à tout va. On a commencé à travailler cette édition-là en septembre dernier, donc c'est-à-dire que ça demandait du travail, plein de péripéties. On pourrait faire l'expérience du montage d'événements, et l'idée c'est vraiment de partager aux professionnels du monde de l'UX des pratiques, des astuces, d'être inspirants aussi, qui permettent de se rencontrer entre professionnels, de se rendre compte que on est parfois un peu tous dans la même galère, qu'on vit les mêmes choses et qu'il y a des manières de s'en sortir, des manières de convaincre, des manières de parler de ce métier-là.
Du coup, tu parlais un peu des galères. Est-ce qu'il y a eu des points spécifiquement compliqués pour organiser un si gros événement ?
Tout à fait. On est sur un trend positif, ça monte, ça grossit. J'ai connu FUPA en 2013, il y avait 100-200 personnes. Voilà, ça monte. On a de plus en plus d'ambition et je pense que l'exigence qui est du public est la nôtre. Alors, est-ce qu'on se met trop la pression ? J'en sais rien. Mais en tout cas, on peut plus rester modeste. On n'est plus sous les radars finalement. Donc il faut qu'on soit présent. Ça, c'est très important. Il faut qu'on ait une exigence avec nous-mêmes parce qu'en face, il y a de la demande. Alors face à ça, parfois, est-ce qu'on s'emballe sur des choses ou est-ce qu'on vise trop gros ? Je n'en sais rien. Mais on a passé un cap et un gap aussi en termes d'organisation interne. Et donc dans les échecs, dans les difficultés, en tout cas, il y a cette motivation à garder tout au long de l'année. Plus on commence tôt, plus il faut faire durer cette motivation. Et la communication, elle est primordiale. Enfin, quand je parle d'hygiène de communication, parce qu'entre nous, on est à distance. On se voit à l'AG, on se voit au bootcamp, c'est un week-end d'intégration pour les nouveaux membres du CA, enfin, et les responsables d'antenne. Et c'est important qu'à distance, il y ait cette manière bienveillante, en tout cas, de communiquer, qui est couplée à cette exigence. On en veut beaucoup, on veut que ça soit très bien. Et dans les difficultés, c'était ça, en tout cas, cette année, moi, que j'ai vécu. Et je pense que plus on se connaîtra dans l'équipe et plus on pourra accepter les difficultés.
Voilà. Et du coup, en termes d'organisation, est-ce qu'il y a des points sur lesquels toi tu te sens déçu ou frustré, que tu aimerais continuer à améliorer ?
Oui, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est que le sponsoring, il faut le commencer très tôt. Hein, les budgets se votent en septembre-octobre pour l'année d'après. Voilà, ça c'est un des points qu'on pourrait améliorer, en tout cas, être plus proactif avec les entreprises, voire même leur laisser la parole sur des choses qu'elles aimeraient faire et pas nécessairement uniquement nos offres packagées. Pourquoi pas, hein. Là, je donne mon avis, mais c'est à discuter en CA, bien entendu, hein, qui a été nouvellement élu hier soir. Donc je suis toujours président. Renouvelé. Donc ça, c'est l'un des points qu'on pourrait améliorer. Sur l'événement, sur deux jours, quand on écoute les retours à chaud, il y a tellement de choses, de points différents qui sont cités. Parfois, j'ai du mal à avoir une tendance claire et nette. Et ce que j'entends, c'est des choses que nous, on a conscience depuis plusieurs années déjà. Exemple, le niveau d'expertise attendue du public pour comprendre, pour assister à tel ou tel atelier ou conférence. Soit on a des experts qui sont déçus parce que le niveau était trop novice, soit l'inverse. Et c'est catégoriser les sujets qui nous sont proposés et les speakers, même si on fait rien qu'un niveau en 3, un novice, middle, expert, c'est assez compliqué. Ce qui amène à se poser la question, comment on change les choses dans les UX Days, ou est-ce qu'on propose d'autres formats qui sont peut-être adressés demain que à des experts.
C'est une réflexion que vous avez en ce moment?
Oui, tout à fait. C'est fait partie d'un des chantiers de la mandature 2019-2020.
Quels sont les objectifs plus globalement, au-delà des UX Days, de Flupa et quelle est la vision que veut porter l'association aujourd'hui pour le design en France?
Ah bon, mon rêve, ce serait que je n'ai plus à entendre Flupa quoi, c'est quoi? Surtout quand je parle, quand j'ai en face de moi des gens qui sont dans des services design, UX, même marketing à la rigueur, je peux excuser le fait que chacun a ses chapelles, etc. Mmh. Mais là, il y a pour moi, on est l'un des piliers de l'expérience utilisateur de ce milieu-là en France. On est le plus gros événement francophone sur cet univers-là. Et même si on est de plus en plus connu, on a encore un gros gap à faire sur la communication de l'association et dire aussi que les UX Days, c'est Flupa. C'est l'association Flupa qui le fait, qui existe depuis 2008 et qui a 15 antennes aussi réparties dans 4 pays. Donc ça aussi, c'est relier les événements sous cette grande messe aujourd'hui avec tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Donc il y a de la com à améliorer, il y a répondre aux attentes en termes de guider, accompagner. Il y a beaucoup de publics qui nous posent des questions à tous les événements, des juniors, en reconversion, des experts, et ils sont en attente de... Alors, je vais pas dire qu'on est un phare dans la nuit, mais en tout cas, il y a besoin qu'on propose des choses, on est attendu sur certaines choses. Et je pense qu'on doit travailler sur les formats de partage d'expérience, de restitution, d'ateliers, de conférences. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui doit être étudié cette année, remettre au goût du jour d'anciens formats qu'on a peut-être laissé tomber et qui sont finalement redemandés. J'ai un exemple très flagrant d'une personne qui me demandait oui, en effet, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus experts, etc. Et je dis, vous avez raison, on devrait dire, ben voilà, peut-être faire un format dédié à ceux qui ont plus de 10 ans d'expérience. Et puis, elle me dit, non, mais moi, je suis mature, mais j'ai que 2 ans d'expérience. Hein. Et en effet, dans son discours, elle avait des mots très précis, des attentes, parce qu'elle est sur un sujet précis. Et pourquoi pas des journées thématiques sur un sujet précis, par exemple.
Est-ce que tu peux nous partager ta vision du métier de designer pour les années à venir? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux, le métier évolue vite. Quelle est ta vision sur ça?
Alors, autant avoir un peu d'ambition, hein, voilà. Moi, je pense que le designer, le UX designer, dans l'entreprise, il va avoir un poids énorme.
D'accord.
Je ne parlerai pas des compétences qu'il doit avoir, le modèle hanté ou pas, etc., etc. Mais n'empêche qu'au sein de l'entreprise, il doit parler à tous les services pour faire comprendre son métier. Et on parlait d'être la voix de l'utilisateur. Il doit aussi comprendre les contraintes de l'entreprise dans laquelle il est. Ça commence par ça. Et après, ça commence par montrer ce qu'il fait. Bah, tiens, on avait des exemples sur peut-être qu'il faut que tu te mettes dans le bureau des développeurs. Parce que UX designer, l'autre personne disait, ben moi j'y suis déjà dans leur bureau. Ah, peut-être qu'il faut que tu affiches des choses au mur, etc. Voilà. Donc il faut montrer des choses, il faut attirer le regard, il faut teaser en fait. Donc ce rôle-là, de ce poste-là, c'est que son territoire, enfin son périmètre n'est pas défini pour moi. Mais par contre, il doit assumer certaines choses qu'il peut ou pas faire, parce qu'on lui demande souvent beaucoup trop de choses sans savoir vraiment ce qu'il peut faire. Donc il y a vraiment un rôle important. Alors, est-ce que c'est lui qui doit porter la transformation digitale des entreprises? Ça, j'en sais rien. Mais n'empêche que, pour que ça marche bien, il faut que les gens se parlent entre eux dans l'entreprise, et il faut qu'ils soient très sensibilisés à son secteur et qu'ils sensibilisent les autres. Donc ça lui fait beaucoup sur les épaules. Il doit travailler en groupe, bien sûr, il n'y a pas que lui, mais je pense qu'il a... Il a beaucoup de responsabilités demain.
D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans une des conférences, celle de Morgan Payne, elle disait justement, elle décrivait des situations dans lesquelles les designers avaient besoin de convaincre et comment elle faisait pour convaincre ses interlocuteurs dans l'entreprise que son travail avait de la valeur, qui est d'ailleurs une question qui revient très souvent. Énormément de designers, qu'ils soient juniors ou même seniors, est-ce que toi, tu aurais des conseils à partager sur ça?
Alors, il faut commencer modeste. Ça, parce que de toute façon, on n'aura pas l'argent pour faire beaucoup plus au départ et montrer que les petits trucs marchent. Même des grands groupes qui commencent par une petite équipe sans investissement, ils se rendent compte qu'il y a des retours sur investissement et puis après ils peuvent convaincre la hiérarchie de mettre de l'argent pour dupliquer tous les bénéfices qu'ils ont pu engranger avec presque rien. Donc ça c'est vraiment très très important, commencer modeste. Et puis, c'est dur d'avoir des retours sur investissement. Vous voyez, ça a payé, etc. On dit souvent qu'une interface qui marche bien, ben, ça, on voit pas l'effort qui était derrière, etc. Si on parle que de conception d'interface. On a une conférence tout à l'heure qui nous disait, essayer d'évaluer le risque de pas faire ça. le temps perdu ou les coûts sur des pistes mauvaises qui ont été explorées alors qu'on aurait pu les éviter.
D'accord.
Voilà.
Comment tu ferais ça, toi?
On a un cas très concret à l'agence Intuiti. On a testé un concept qui allait être mis sur le marché, avec tout était le business plan il était fait, la campagne de com aussi, les partenariats. Et on leur a dit, est-ce que vous avez testé ce concept-là? Ah non, on le fait. Donc on a fait trois groupes. Et puis on s'est rendu compte que ça ne marchait pas en l'état. Le mix marketing ne marchait pas, le produit ne marchait pas, le réseau de distribution n'était pas bon, etc., etc. Les usages non plus n'étaient pas bien perçus. Les évocations spontanées sur le parcours, ça ne marchait pas. Et donc notre but en Cali, c'est de montrer. Les gens, ils sont dans cet univers d'image de marque et vous les amenez ailleurs et c'est très compliqué. Et on leur a fait économiser 100 000 euros en termes de lancement de produit. Donc là, c'est l'argent économisé qui a été mis comme KPI finalement. Moi, alors, j'ai découvert Flipa en 2013. Je suis toujours ravi de passer du temps avec mes camarades. C'est jamais rose tous les jours, en effet. C'est un travail de bénévole, donc c'est en plus de notre boulot. Mais quand je vois ce qu'on réalise, là cette année l'équipe elle m'a particulièrement impressionné. On vise toujours plus haut, on y arrive, c'est pas toujours facile. Je suis encore là parce que j'ai envie d'encore faire mieux demain.
Donc, je m'appelle Patrick Vallon, je travaille pour l'agence AdSense et je suis en mission chez Carrefour et je travaille au sein de la DSI.
D'accord.
Donc, j'accompagne tous les projets en B2B au sein de l'entreprise et plus particulièrement l'ensemble des projets métiers pour Carrefour.
Au niveau de Flupa, quel est ton rôle, toi, dans l'organisation aujourd'hui?
Donc je m'occupe de l'antenne Paris pour cette nouvelle année qui va commencer suite à l'AG qui s'est déroulée hier soir. Et donc pour 2019-2020, je vais essayer comment dirais-je, de renforcer l'équipe présente et qui m'entoure et de faire en sorte qu'on puisse monter en gap par rapport aux attentes que la communauté peut avoir par rapport aux différentes proposition de meet-up et de sujets abordés lors des meet-up fait tous les mois, puisque c'est l'objectif qu'on essaye de tenir.
C'est assez ambitieux comme objectif, hein, tous les mois. Et quelles sont les attentes? Parce que j'ai vu que vous aviez fait un apéro la semaine dernière.
Exact. L'apéro s'est fait suite à un autre atelier qu'on a fait au mois de janvier, qui était un atelier vision justement concernant l'antenne Paris. Donc c'était de recueillir les attentes que peut avoir les participants des meet-up Flupa, et plus particulièrement de comprendre est-ce que déjà ce que l'on fait répond à leurs attentes, et aussi de comprendre quels seraient les autres sujets. Donc tout à l'heure on a évoqué avec Nabil le fait qu'il y avait différentes segmentations, si je peux dire ainsi, sur les niveaux au sein de la communauté. Donc déjà de répondre à cette problématique-là peut se faire sous différentes formes. Aujourd'hui, en tout cas, sur l'année qui s'est passée, ça a été plutôt de faire des meet-up génériques, donc de tout niveau. Et pour cela, c'était une façon assez simple pour moi de le faire. C'était de partir sur une phase d'abord très théorique pour embarquer tout le monde, et ensuite de partir sur une phase d'atelier concernant le sujet pour faciliter quelles que soient les personnes qui viennent. Et en général, ça fonctionne plutôt pas mal, et lorsque je détecte qu'une personne, ça arrive de temps en temps, par exemple, qui est du métier et qui connaît pas du tout ce qu'est l'UX design, eh bien là je m'approche d'elle et au fur et à mesure des différentes phases du meet-up, eh bien je lui explique davantage qu'est-ce que l'on fait et pourquoi on le fait de cette manière-là pour qu'elle puisse rejoindre le groupe et pas se sentir trop à l'écart, par exemple.
Hier soir, tu me parlais de la difficulté de se reposer sur des bénévoles.
Alors, je dirais pas reposer, mais plutôt réussir à faire percevoir l'engagement déjà que les bénévoles actifs, les membres actifs de l'association ont vis-à-vis de la communauté, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Nabil, le fait qu'on puisse faire en sorte que l'association Flupa soit perçue comme étant l'association qui mène les UX Day, et c'est un peu la même chose vis-à-vis de l'antenne, c'est-à-dire que et je pense que c'est un peu pour tout type de communauté, lorsqu'on va sur l'application Meetup, il est facile de trouver un sujet en lisant juste le titre proposé du Meetup, mais par contre de savoir qui est derrière et comment les choses se font, on a beau essayer de le présenter systématiquement lors des Meetup, il est difficile pour les personnes de se dire tiens, je vais m'engager parce que Patrick, il parle du fait de peut-être se joindre à la team, mais je peux parfaitement moi comprendre que, et c'est un choix moi que j'ai fait de m'engager, d'aller plus loin que uniquement mon cercle professionnel, mais de aussi par petits moments du temps que je peux accorder, du coup de pouvoir créer une valeur ajoutée pour les personnes qui ont besoin au sein de la communauté sur les thématiques abordées dans l'UX. Et au-delà de leur apporter quelque chose, c'est de aussi capitaliser, entre guillemets, ce terme-là, je n'aime pas trop, mais c'est une façon de bien illustrer la chose, c'est-à-dire de aussi faire en sorte que seul, on peut aller très vite, mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et j'essaye de faire percevoir cette action-là pour essayer de faire en sorte que les personnes qui rejoignent la team de Floupa Paris, eh bien, de pouvoir elles aussi se mettre en action et de pouvoir mener aussi des actions à leur tour.
Tu as assisté à certaines conférences.
Oui.
Est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont marqué plus que d'autres sur des sujets qui sont forts, en fait, qui font écho à ta pratique du design au quotidien?
Oui, alors pour ma part, celle de Pauline concernant le design sprint m'a plu dans le sens où ce qu'elle a présenté était très concret et en tout cas il est difficile d'aborder toutes les thématiques, mais en tout cas pour ma part je me suis vraiment senti assez en phase avec ce qu'elle présentait, c'est-à-dire de démystifier un petit peu le design sprint tel qu'on le connaît aujourd'hui et de se dire que ok c'est pas la question de se dire on peut le faire en 1 ou en 5 jours, c'est plutôt de se dire, et elle l'a nommé, elle a dit voilà différentes types de design sont possibles de faire en fonction des problématiques qu'elle rencontre avec les clients pour lesquels elle travaille. Et ça, je trouve ça cool parce qu'elle l'a présenté. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes présentes qui se sont senties concernées par ce qu'elle présentait et du coup qui se sont dit, bah, au final, ce que moi je vis, bah, au final, je peux y mettre maintenant des nouveaux termes et je peux essayer de le refaire. Et c'est ça que j'aime bien. C'est cette approche-là que moi j'essaye de faire au quotidien, c'est de démonter complètement les méthodologies existantes et de prendre uniquement ce qui peut être vraiment utile dans les différents projets ou les challenges qu'on peut me proposer de faire, puisque pour moi, le challenge au quotidien, c'est surtout de le faire avec peu de moyens, donc budgétaires, et avec pas beaucoup de temps, puisque souvent, c'est assez lié. Donc, c'est le défi que l'on a, je pense, en tant que designer UX tous les jours et cette conférence-là était plutôt représentative, en tout cas pour moi.
C'est ce qu'elle disait. Cheap, fast, good.
Exactement.
On peut avoir les trois. Et est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais aimé voir abordés?
Alors, je vais te faire une réponse un peu normand, parce que je suis moi-même normand.
D'accord.
Dans le sens où, lorsqu'on a préparé la programmation, donc la team orateur a sollicité l'ensemble de la communauté des UX designers qui voulaient proposer un sujet sur cet ensemble-là, ben ça couvrait presque l'ensemble des sujets qu'on aurait pu tous écouter, mais alors là, il aurait fallu 3 ou 4 jours pour les faire tous. Il y a un jury qui a été élu pour sélectionner donc les conférences qui leur paraissaient être déjà en phase avec les attentes que les designers peuvent avoir aujourd'hui, et ensuite de faire en sorte d'avoir un programme assez homogène. Je trouve que cette année, on a su le faire encore mieux et d'une qualité encore plus forte que l'année précédente. L'année précédente était magnifique et de l'avoir monté encore d'un cran, je trouve ça vraiment génial. Donc, je trouve que c'est déjà le premier point positif à mettre en avant. Et le deuxième point positif, c'est de se dire qu'il n'y a pas que les UX Days à attendre, il y a aussi tout ce qui peut se passer au sein des antennes. Et ça, c'est super intéressant parce que ça peut permettre à l'ensemble des designers de se manifester et de dire c'était cool, mais moi j'habite Paris et j'aimerais bien retrouver aussi tel sujet, est-ce qu'il est possible de l'aborder? Et là, voilà, c'est de se connecter avec les communautés et avec les antennes de Floupa. C'est plutôt cool. Et moi, j'aime bien cet aspect-là, c'est-à-dire cet aspect communautaire et le fait de pouvoir échanger et aussi partager les choses, puisque même si les 10 différentes communautés, chaque communauté répond à des vraies problématiques bien spécifiques et différentes. Et on est plutôt là à échanger et interagir, et c'est le cas de ce qu'on est en train de faire actuellement.
Parfait. Et pour terminer, du coup, un mot sur les événements que tu prépares à Paris, les meet-ups dans le cadre de Flupa. C'est quoi les prochains sujets? Est-ce qu'on peut avoir un peu de teasing?
Un teasing. Oui, il y a des sujets. Enfin, il y a Alexia qui a parlé de l'AR et de la VR. J'aimerais encore continuer à développer des sujets, enfin, à encore démystifier un peu ces sujets-là. Je trouve que de parler des nouvelles interfaces et pas uniquement des interfaces que l'on pratique au quotidien, ce serait cool parce que ça va être des sujets qui vont monter de plus en plus. Mmh. Là, juste avant, on parlait de l'intelligence artificielle. Mmh. Je trouve que ce sont aussi des sujets qu'il faut continuer à développer. Et j'oublie pas, parce que j'ai échangé lors des UX Day avec quelques personnes, il y a beaucoup de juniors qui ont sollicité le fait d'avoir soit des UX Day, mais vraiment pour eux, et parce que ils se sentaient un peu noyés d'informations. Donc du coup, je leur ai répondu en leur disant que oui, c'était possible si on identifiait plus facilement certainement des communautés juniors ou des étudiants, enfin des communautés d'étudiants qui se manifestent pour justement essayer de peut-être faire quelque chose ensemble et en fonction des sujets à aborder avec eux.
Très clair. Je te remercie de ton temps.
Merci à toi.
Pour conclure, écoutons quelques avis sur cette journée de conférence.
Alors, ce que j'ai pensé de cette journée, il y avait des conversations extrêmement intéressantes, notamment Steve Kruk et Emmanuel Marie-Véry sur tout ce qui est analyse de la data. C'était ultra intéressant parce qu'on avait une approche un peu plus objective et ça, c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a d'autres conférences qui m'ont un petit peu moins plu, celle notamment où il y avait beaucoup trop de savoir théorique et pas assez de méthodes clés en main et où on ressort avec un petit peu rien du tout à la fin. Celle sur le design sprint était super intéressante parce qu'elle avait sa méthode du design sprint et ça, c'était vraiment cool. Qu'elle avait réussi à créer et à adapter le design sprint en fonction de ses besoins et de les adapter en fonction d'une réalité terrain.
Designé pour les esprits anxieux, qui était intéressante et un peu frustrante en même temps.
Pourquoi ?
Une bonne partie de la présentation, elle parlait en fait de ses recherches qu'elle a fait sur les troubles d'anxiété, elle explique ça genre vraiment super bien, et une très bonne démarche en fait de prendre ça dans tout le processus de design, prendre en compte les troubles anxieux des gens, sachant que ça touche énormément de personnes. Donc genre hyper intéressant, elle a très bien synthétisé les infos et tout. Et en fait, après, elle a fait du cas par cas et donc elle a présenté sur des interfaces et comparé en fait des interfaces mauvaises, enfin, problèmes et une solution, quoi. Et à un moment, elle parlait donc de. En fait, elle se focussait énormément sur des features très précises d'interface. Mm-hmm. Et elle disait donc ça, il faut pas le faire, ça, il faut le faire, etc. Et donc, je suis d'accord sur le principe, ok, mais. Enfin, il n'y avait pas en fait de. J'ai pas vu de réflexion globale sur ton produit. Dans la vie de ton utilisateur, quoi. Mmh. Et c'était un peu. Ça m'a un peu dérangé. J'ai pas de déception, c'est juste que j'ai beaucoup de questions sans réponse encore, mais c'est pas fini, quoi.
Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes de ces questions sans réponse?
Dans les questions, surtout sur réalité augmentée, réalité virtuelle, là-dessus, c'est tellement. La conférence était hyper intéressante, mais genre, dans le concret, en fait, j'avais plein de questions sur comment ils font, quels sont les process, comment ils testent, quels outils ils utilisent, comment ils communiquent entre les équipes. Enfin, plein de choses qui me paraissent très floues. Donc du coup, je vais me renseigner là-dessus, mais ça bouillonne un peu. J'ai besoin de temps pour processer aussi toutes les informations, quoi.
Quelles étaient tes problématiques quand t'es venu, et est-ce qu'il y avait des choses que t'avais envie de trouver ici pour t'aider dans ton métier, dans ton quotidien?
Alors la problématique a été évoquée par Morgan Peng sur... On est dans des entreprises, notamment très industrielles, avec des gens qui, des entreprises qui ont plus de 100 ans, ouais. Avec des gens qui sont dans des contextes qui ressemblent vachement à du public, où notre métier n'est absolument pas compris, et d'avoir des petits tips clés en main sur okay, comment affronter ces personnes, même si on fait plus ou moins parce qu'on arrive à gérer des situations. Sur ça, ça a été un petit peu répondu, ça c'était cool. Et c'était surtout de découvrir des nouvelles choses, donc... là, j'ai été servi. Comment je fais J'essaye de parler de ROI, pas mal.
Ok.
Mais c'est ce qu'elle disait elle, au début, ce qu'elle faisait. J'essaye de donner des exemples concrets de réussite, notamment dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui a marché, en fonction de quels critères, avec des projets qu'ils connaissent. Voilà, peut-être que je vais réagir différemment et essayer de parler différemment en parlant leur langage. Donc, ça, on va voir.
Le langage du ROI, par exemple?
Non, le langage de l'entreprise et de la culture de la personne, plutôt. Ce que j'aimerais avoir comme sujet, moi je m'intéresse beaucoup à l'interculturalité, okay. Sur comment transposer des interfaces d'une culture à une autre. sur ce qu'on peut apprendre, les tips qu'on peut apprendre en fonction de là où on travaille. Genre, là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient bossé à Londres, à Hong Kong, etc., aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Quelles sont les méthodes de travail qui sont aussi applicables en France? Parce que tout ce qui. Il faut vraiment l'appliquer et l'adapter à la culture. Et ça, ça serait un truc cool. J'essaye un petit peu d'essayer de comprendre les biais culturels que l'on a tous pour voir comment on pourrait adapter nos interfaces en fonction d'une culture, et notamment quand tu as des différences interculturelles comme Chine, Chine-France par exemple, bah, tu vas pas pouvoir faire la même chose.
Pour terminer, une question un peu globale, mais quel type de frustration et problème tu rencontres au quotidien dans ton travail, qui sont les grands enjeux pour toi en fait, pour devenir un meilleur designer?
Je crois que c'est un peu comme tout le monde. C'est pour le contexte, je travaille à Pôle Emploi. Enfin, je suis apprenti là-bas, donc je suis censée être UX designer pour une start-up d'État qui a été démarrée il y a 2 ans. Et en fait, ma grande frustration, en fait, c'est le manque d'organisation, de process et surtout de prise en compte du designer dans les projets. Alors, on passe des fois plus l'impression d'être un exécutant plutôt que un participant du projet actif, quoi.